oublié quelque chose pour commencer la prédication. C'est pas qu'il fait froid, mais presque. Non, mais j'avais un peu cette image. Oui, et il a froid aussi. Ces jours, il pleut. Amen. Néanmoins, quand il pleut, on s'abrite. Et on met souvent ce genre de choses, capuchon bien serré. Et j'ai l'impression que quand je me promène dans la ville comme ça, je suis protégé, plus ou moins. En tout cas, j'essaye de ne pas rester trop longtemps sous l'eau, sinon ça a quand même ses limites. Mais ce matin, ce que j'avais envie de vous rendre attentif, c'est est-ce que vous avez enlevé votre veste en vous asseyant ? Parce qu'on parle souvent de l'eau de l'esprit ou de la pluie de l'esprit. Et parfois, j'ai l'impression qu'on aime parler de la pluie de l'esprit, mais on garde quand même notre habit Gore-Tex, les pantalons, les chaussures, le capuchon. Et puis, ah, c'est beau cette pluie qui tombe, mais qu'elle ne me touche pas, voyons. Peut-être que vous avez enlevé le Gore-Tex pour la louange, mais que vous l'avez remis pour la prédication. Peut-être que vous l'avez enlevé pour venir au culte, mais vous allez le mettre toute la semaine et que la pluie de Dieu aura de la peine à inonder votre cœur. Et je crois que nous avons tous un danger parce qu'on risque de le mettre à certains moments, parce qu'il y a certains endroits où on n'a pas trop envie que ça soit mouillé ou que ça devienne un peu une terre dans laquelle Dieu va pouvoir semer sa parole. Et enlevez votre habit. Essayons d'être devant Dieu, devant lui ce matin. Il est là, présent, en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Écoutons sa parole. Demain, après-demain, lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous êtes dans la nature, lorsque vous croisez quelqu'un, lorsque une personne vous dit quelque chose, décelez ce qui est de la pluie de Dieu et laissez-la irriguer votre intérieur, votre esprit, votre intelligence, votre esprit, afin qu'elle parle et qu'elle vous conduise. Parce que vous voyez, dans ce qu'on a vu dans l'évangile de Luc, et je vais prendre un nouveau texte, c'est qu'on voit qu'il y en a certains qui gardent cet habit-là. Et plus ça va de l'avant, plus il le serre sur eux. Et nous avons parlé plusieurs fois des pharisiens, et nous avons vu comme, malheureusement, nous avons parfois tendance à leur ressembler. Donc oui, on parle d'eux, mais en même temps, c'est souvent qu'on parle de nous. Et alors que Jésus est entré à Jérusalem et qu'il reste quelques jours avant la croix, 3, 4, 5, Jésus a encore des choses à transmettre et à enseigner. Et là, il prend une parabole et écoutez ce qu'il dit. C'est dans Luc 20, à partir du verset 9.
Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être, en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Ah, voilà l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « Ah, mais certainement pas !» Mais Jésus rejeta les regards sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ?» Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même. Mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.
Les pharisiens entendirent cette parabole, se retournèrent, s'agenouillèrent, prièrent et commencèrent à écouter Jésus. Ça aurait été pas mal que ça finisse comme ça, non ? Mais non, pas du tout. Ils n'ont pas enlevé leur manteau de pluie. Pas du tout. Ils l'ont au contraire resserré et c'est marqué, ils cherchèrent à l'accuser et même à l'arrêter. Et ce qui les a retenus, c'est qu'ils avaient peur des gens. Mais ils étaient déterminés. Et finalement, leur stratagème, 3 jours après ou 4 jours après, a réussi. Et ils ont arrêté Jésus et ils l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié. On peut se dire, mais est-ce que c'était déjà pas peine perdue que Jésus s'adresse encore à ces gens qui devaient le regarder comme avec des yeux, vous voyez, un peu haineux ? Mais Jésus leur parle encore, parce que la grâce, elle est là jusqu'au bout, on va dire. Ils avaient encore le choix de changer d'avis. Mais malheureusement, l'effet de groupe et ce qu'ils avaient décidé déjà auparavant, au lieu de, comment dire, diminuer, a pris encore une résolution plus grande. Et ils ont décidé, non, on va l'arrêter. La grâce de Dieu, elle est là jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas un moment trop tard où on ne peut plus bénéficier de la grâce de Dieu. Tant que nous avons la vie, Dieu est là, son pardon est à disposition et sa grâce peut nous permettre de poursuivre la route. Et peut-être même si on a gardé quelque chose depuis longtemps et qu'on n'a pas réussi comme à le lâcher, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, il y a la grâce. Et si les pharisiens s'étaient comportés différemment, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais il y aurait des choses différentes qui se seraient passées. Et puis on sait qu'il y a des pharisiens qui ont entendu. Pas beaucoup, mais on sait que Nicodème, que Joseph d'Arimathée, en tout cas pour en nommer deux, ont entendu ce que Jésus disait, bien qu'ils étaient dans cette appellation de pharisiens. Cette parabole est très intéressante parce qu'elle résume d'une certaine manière l'Ancien Testament jusqu'à ce qui se passe avec ce qui se passe avec Jésus. On a le propriétaire qui est là, qui plante une vigne. C'est une image de Dieu, le Créateur, qui a créé la terre, mais ensuite il a choisi le peuple d'Israël pour se révéler. Et cette vigne, c'est le peuple d'Israël. Et plein de textes en parlent dans l'Ancien Testament. Et ensuite, les vignerons, ceux qui gèrent la vigne, sont les responsables du peuple. Et donc, ils sont appelés à gérer, cultiver la vigne, la tailler, la préparer, récolter le raisin. Et cette récolte, le fruit de la vigne, eh bien, est la gloire qui est donnée à Dieu par le peuple d'Israël qui suit son Dieu. Et lorsque les dirigeants du peuple conduisent le peuple à aimer Dieu, à l'adorer selon les prescriptions qui avaient été données par Moïse notamment, eh bien, ça honore Dieu. Et il y a du fruit, ce fruit, c'est l'adoration vers Dieu. Et donc, le propriétaire envoie tous les ans quelqu'un pour prendre sa part de raisin, du fruit. Et c'est très compréhensible. Aujourd'hui, ben, y a plein de situations comme ça. Vous louez un local pour votre entreprise, eh bien, chaque mois ou chaque année, vous payez un loyer par rapport à ce que vous avez reçu. Le fruit de votre travail vous permet, on va dire, d'honorer la personne à qui vous avez loué ce local. Si vous ne louez pas ce local, que se passe ? Si vous ne payez pas la location, que se passe-t-il ? Vous allez recevoir un rappel, un deuxième, peut-être un coup de téléphone un peu pressant. Puis si vous refusez toujours, eh bien, vous allez probablement recevoir soit un commandement de payer ou une sommation. Et si une médiation ne suffit pas, vous allez être expulsé et votre local sera donné à quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qui se passe ici. Les responsables du peuple reçoivent, si on veut bien, les gens qui viennent prendre la récolte. Elles envoient, Dieu envoie des prophètes pour avertir le peuple et l'encourager à suivre Dieu. Parce qu'il y avait eu quelques errements ou parfois de graves erreurs et ils s'étaient tournés vers d'autres dieux. Mais les prophètes viennent pour dire, mais souvenez-vous, voilà ce que Moïse a dit. Et au lieu d'exploiter le peuple, venez et adorez Dieu et conduisez le peuple à adorer Dieu. Un prophète est envoyé, il est battu. Un deuxième est envoyé, il est chassé. Un troisième est envoyé. Osée, Jérémie, Ésaïe, Sophonie. Mais ils ne sont pas entendus. Parfois un petit moment, et il y a un regain de bien pendant une génération peut-être, à certains moments dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais de manière continue, ils rejettent la voix de Dieu. Et finalement, le propriétaire, dans cette parabole, envoie son fils en disant « Mais mon fils, ils vont l'écouter. » Et qu'est-ce qu'il est dit ? Au verset 15, « Le fils viendra... » Non, pardon, un peu avant. Il envoya... Je ne sais plus quel verset où j'en suis, là, excusez-moi. Au verset 14, « Quand les vignerons virent le fils, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. C'est une parole prophétique de ce qui va se passer pour Jésus quelques jours après. Quelques jours après, Jésus est jeté hors de Jérusalem. Il est cloué sur une croix en dehors des murailles de Jérusalem, sur le mont Golgotha, et il est tué, crucifié. Donc Jésus a envoyé son fils pour transmettre la révélation de son amour. Et pas simplement le décrire, mais le vivre, l'incarner et aimer. Mais cet amour n'est pas reçu. Et par rapport aux chefs du peuple, les chefs religieux, ils refusent et ils rejettent Jésus et le tuent. Et que se passe-t-il ? Il est dit que le maître de la vigne viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et là, il y a un retournement complet de situation. C'est qu'au lieu que cette vigne porte du fruit dans le cadre du peuple d'Israël, eh bien, cette adoration va se transformer et tout le bénéfice de cette alliance qui était pour le peuple d'abord d'Israël va s'élargir et par le sacrifice de Christ va s'ouvrir au monde entier. Donc Dieu donne sa grâce à tous les peuples. Israël était appelé à être la lumière des nations et à montrer le chemin vers Dieu. Mais ils ont failli en rejetant Jésus. Et du coup, Jésus, qui est la lumière des nations, eh bien, éclaire tous les peuples, toutes les ethnies, dans toutes les générations. Les pharisiens ont bien compris qu'ils s'adressaient à eux, et ils en sont d'autant plus fâchés. Et Jésus appuie un petit peu en disant, et en reprenant un texte que les pharisiens connaissent, du psaume 118, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Donc il compare, ou il se compare à une pierre, dans le sens que cette pierre envoyée par Dieu, qui est solide, qui est utile pour la construction, eh bien les constructeurs la rejettent, la trouvent pas appropriée à la construction. Mais en fait, c'est elle qui revient en étant la pierre qui va tenir la construction. Une pierre angulaire, c'est celle qui tient l'édifice. Il en faut une ou plus, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une de celles qui tient l'édifice. Elle est à la base, elle fait partie des fondations. Quand on parle de pierre angulaire, on peut aussi parler de la pierre d'angle ou d'une pierre qu'on met parfois dans... Vous savez, ces constructions où il y a des colonnes, et puis ensuite il y a une voûte. Puis il y a des pierres qui sont mises et puis il y a une pierre qui vient haut et qui tient tout. C'est aussi, ça fait référence aussi à cette pierre-là. Et j'aime bien parler de Jésus dans ces deux termes, c'est-à-dire à la fois la fondation et puis ce qui tient tout en haut. Jésus tient tout et il est la pierre qui a été rejetée parce qu'il a été tué, mis à mort. Mais par la résurrection, il devient la pierre d'angle, celle qui est la fondation. Il est la fondation de la nouvelle alliance qui inclut les juifs et les non-juifs, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament est très clair par rapport à cela. Il y a plusieurs textes qui font référence à Christ, qui est cette pierre angulaire. Christ est venu à cause du péché de l'être humain. Il a été tué. Le mal, en fait, s'est manifesté au travers notamment des pharisiens et d'autres. Et ils l'ont mis à mort. Mais comme Jésus était sans péché, eh bien, au travers la mort physique n'a pas eu le pouvoir sur lui de le maintenir dans la terre. Il est ressuscité après 3 jours par la puissance de Dieu. Et ainsi, nous avons tous la vie au travers de lui. Parce que nous qui sommes pécheurs, nous n'avons pas cette même nature que Christ. Nous ne sommes pas sans péché. Christ était homme et Dieu. Il était sans péché. Nous qui sommes seulement hommes ou êtres humains, ah oui, ça c'est... Merci beaucoup. Nous qui sommes êtres humains, pécheurs, nous pouvons comme nous associer à Christ et nous mettre avec Christ et ainsi échapper à la mort éternelle, à la mort liée au péché. Nous n'allons pas échapper à la mort de notre corps physique, à moins que Jésus revienne avant, mais nous échappons à la mort éternelle qui est séparation de Dieu. Et en nous associant à Christ, eh bien, nous passons au travers de la mort et nous ressuscitons avec Christ. Et nous faisons ainsi partie de cette nouvelle construction, de cet édifice qui est cette pierre angulaire, qui est avec cette pierre angulaire. Et j'aime beaucoup ce texte qui parle d'un retournement, d'une rédemption, d'une résurrection, d'une transformation. Parce que Christ a cette capacité de transformer ce qui était le plus mal en bien. Ces hommes, on voulait à mort à Jésus, c'est le cas de dire. 3 jours après, le crucifie, mais 3 jours après la crucifixion, Jésus vient à la vie. Et c'est la proclamation. Et nous allons cette semaine vivre ce temps de Pâques. Nous allons nous arrêter vendredi sur la mort de Christ et dimanche sur la résurrection. Célébrons ensemble cette vie et souvenons-nous que Jésus a tout transformé, tout le mal en bien. Jésus a eu la victoire totale sur le mal pour avoir une victoire totale qui est celle du bien, du nouveau royaume, d'être dans la présence de Dieu. Hier, je reçois un message de mon fils Nathanaël, puis il me dit « Hey, papa, t'as pas un verset avec 4 chiffres pour... c'était pourquoi ? Pour un cadenas, là ? Que t'aimerais que tout le monde à Carouge connaisse ?» Puis j'ai pensé à un verset, puis je me suis dit « Oh, mais le chiffre, il va pas, c'est 50-20, c'est beaucoup trop simple. » Puis après, j'ai cherché d'autres textes, puis je me disais « Mais dans le Nouveau Testament, déjà avoir 2 chiffres au départ, c'est compliqué. C'est souvent des petites lettres. » Puis bon, je t'ai envoyé un verset, mais je ne suis pas satisfait. Celui que j'aimerais qu'on sache, puis après, ça sera sur le cadenas ou pas, c'est Genèse 50-20. Retenez 50-20, si vous ne le savez pas déjà, parce que j'en ai déjà plusieurs fois fait mention. Vous aviez projeté de me faire du mal, dit Joseph. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est ce qui se passe avec Jésus. Les gens ont souhaité le mal, c'est-à-dire détruire Jésus, le réduire à rien, anéantir sa parole. Et ils l'ont fait mourir pour cela. Mais Dieu a changé cela en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors dans Genèse 50-20, on a lu, c'est la conclusion de l'histoire de Joseph, qui est cet homme qui a été vendu comme esclave par ses frères parce qu'il dérangeait trop. Il a été vendu en Égypte. Et il y a plein de péripéties que vous pouvez lire dans la Genèse. Et à partir de la prison, tout à coup, Joseph est extrait et devient le premier ministre, l'homme après Pharaon, et il gère l'Égypte pendant des années. Et à cause de la famine, les gens de sa famille, qui vivaient à quelques centaines de kilomètres, viennent chercher du blé en Égypte Et là, les frères de Joseph sont tout à coup en présence de Joseph. Et puis, de fil en aiguille, toute la famille vit en Égypte et il passe encore de nombreuses années. Puis au moment où le père de Joseph et des frères meurent, les frères ont peur. Et ils vont vers Joseph et ils disent, mais s'il te plaît, pardonne-nous avec tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Et puis Joseph leur dit, mais qu'est-ce que vous dites là? Ce qui s'est passé, le mal que vous avez fait, Dieu l'a tourné en bien. Parce que si je n'avais pas été là, vous auriez peut-être disparu ou il y aurait eu tellement de morts. Parce qu'au travers de l'action de Joseph, les gens ont pu survivre à la famine. Et donc, Joseph est en mesure de voir que Dieu, dans sa souveraineté, alors que même lui a beaucoup souffert, et pour arriver à dire cette parole, ça a pris du temps, il ne l'a pas dit tout de suite, enfin, dans son histoire. Mais quand les frères sont venus, son cœur était prêt. Et il a dit, voilà, Dieu, vous avez voulu le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et dans cette histoire des vignerons, c'est la même chose. Les responsables du peuple d'Israël ont voulu le mal, mais Dieu a pris ce mal et l'a tourné en bien, et c'est la résurrection. Et après, dans l'histoire de l'Église, dans les Actes, mais on peut lire même dans plein d'épisodes de l'histoire de l'Église, il y a plein de situations où le mal semble dominer, où il y a de la persécution, mais Dieu le tourne en bien. Rien que dans le Nouveau Testament, on voit par exemple que plusieurs fois, Paul a été arrêté et mis en prison. Et je pense qu'il a souffert en prison, et ce n'était pas facile, il le dit par moments. Mais en même temps, en prison, il a eu le temps d'écrire, il a eu le temps, disons, de méditer, d'écouter Dieu, et d'écrire des lettres à différentes églises, des lettres que nous avons aujourd'hui, des lettres qui font partie de la Bible. Le mal qui était intenté pour mettre Paul en prison, pour le garder au cachot, qu'il ne puisse rien dire et pas diffuser l'Évangile, ça a été transformé et du cachot, l'Évangile est répandu dans le monde entier au travers de ces lettres. Dieu aime retourner les situations. Non seulement il aime, il a cette capacité par Christ qui est mort. Nous avons chanté avant que le ciel vienne. Elina nous a invités à donner à Dieu différentes situations. Et je crois que c'est vraiment dans cet ordre-là que le ciel vienne et touche la terre, touche notre cœur qui est irrigué par la présence de Dieu, qui n'est pas fermé avec un parapluie ou avec un kawé, mais qui est ouvert à cette pluie qui vient irriguer, qui vient peut-être recreuser des sillons qui étaient durs, qui étaient même craquelés. Et Dieu a envie de transformer le mal en bien. Ah, peut-être que ce n'est pas agréable, mais j'ai envie de vous demander de repenser à la situation ou les situations que vous avez données à Dieu tout à l'heure. Et peut-être même que c'est des situations liées à l'Église ou du mal que vous avez vécu dans le cadre de la communauté ou des communautés dans lesquelles vous avez été. Puis vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment ça peut se faire ici? Et qu'il y a quelque chose que Dieu veut toucher dans votre cœur et veut transformer. Surtout, il peut transformer. Dans ma vie, j'ai eu quelques histoires assez difficiles avec l'Église. Mais je vois que plusieurs fois, Dieu a pu comme transformer cela. Et ça m'a donné plus de liberté dans qui je suis. Ça n'a pas été simple. Ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Il a fallu du temps, il a fallu creuser quelques sillons, laisser l'esprit toucher, restaurer, reconstruire, transformer. Puis on est en transformation permanente, mais il y a des choses où Dieu agit et il transforme le mal en bien. J'ai plus de liberté aujourd'hui dans qui je suis, dans l'appel que Dieu m'a donné, qu'il y a de nombreuses années. Et c'est aussi parce que Dieu a pu transformer des choses qui étaient intentées en mal ou que j'ai mal vécu, mais que Dieu a pu prendre et comme, voilà, transformer par la croix, Et ça, ça a été une source, et c'est une source de bénédiction pour moi aujourd'hui. Quel est ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui dans ton cœur? Quelle situation tu peux donner à Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Et il faut les yeux de Dieu pour voir que cette pierre qui a été rejetée puisse être en fait la bonne pierre. Il est nécessaire d'ouvrir son cœur pour que l'Esprit puisse transformer ce qui semble être néfaste ou fichu ou abîmé, sur lequel peut-être tu pleures, sur lequel peut-être tu te plains, peut-être tu es amer ou en colère. Il faut les yeux de Dieu pour que cela soit transformé en quelque chose qui va s'insérer dans la suite de ton existence pour te permettre de retirer quelque chose qui sera comme germiné ou germé par Dieu, par l'Esprit, dans la terre de ton cœur. Peut-être que je vais le dire de temps en temps. Je vous invite à prier. Seigneur, tu as les clés de la vie. Tu es grand et majestueux. Et tu as cette capacité incroyable qui nous dépasse de venir à nos côtés, de prendre ce qui est abîmé, de porter le mal que nous te laissons et de transformer cela en quelque chose qui est de l'ordre du royaume, qui est bien, qui est beau et qui va faire quelque chose de différent dans la suite de l'existence. Seigneur, merci parce que tu es mort à la croix pour chacun de nous. Et que ce salut est gratuit, et que ce salut a des conséquences dans nos vies de tous les jours, parce qu'il nous permet de vivre à ta lumière. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, afin que nous soyons suffisamment ouverts pour continuer avec toi. Et malgré parfois le mal ou la terreur qui nous assaille, ou les pensées qui nous chargent, où les sentiments et les émotions qui nous pèsent, Seigneur, nous ouvrons encore notre cœur pour que tu prennes cela et que tu, par ton esprit, tu remplisses, que par ton esprit, tu irrigues, que par ton esprit, tu transformes, que par ton esprit, tu permettes que ça prenne une nouvelle forme, une forme qui s'appelle Christ. Merci pour la profondeur avec laquelle tu travailles dans chacun d'entre nous. Et Seigneur, je prie que cette semaine, il y ait des morts et des résurrections et que cela soit tout à ta gloire. Que cette semaine, nous ne retenions pas l'élan de ton esprit à nous conduire dans ce chemin qui passe par la vallée de l'ombre de la mort et qui se termine au tombeau où il y a la résurrection. Seigneur, tu es Dieu, Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ta grâce. Amen.